Dernière ligne écrite à la volée au loup. Révélation sur le mystère de la vie. Volée au loup, novembre 1817. Revenu de mon boissier, voici les dernières lignes que je trace de mon ermitage. Il le faut abandonner, tout rempli des beaux adolescents, qui déjà dans leur rang pressé, cachaient et couronnaient leur père. Je ne verrai plus le magnolia qui promettait sa rose à la tombe de ma Floridienne, le pin de Jérusalem et le cèdre du Liban consacré à la mémoire de Jérôme, le laurier de Grenade, le platane de la Grèce, le chêne de l'Armorique, au pied desquels je peignis Blanca, chantais Cymodocée, inventais Valéda. Ces arbres naquirent et crurent avec mes rêveries. Elles en étaient les amadriades. Ils vont passer sous un autre empire. Leur nouveau maître les aimera-t-il comme je les aimais? Il les laissera dépérir. Il les abattra peut-être. Je ne dois rien conserver sur la terre. C'est en disant adieu au bois d'Aulnay que je vais rappeler l'adieu que je dis autrefois au bois de Combourg. Tous mes jours sont des adieux. Le goût que Lucile m'avait inspiré pour la poésie fut de l'huile jetée sur le feu. Mes sentiments prirent un nouveau degré de force. Il me passa par l'esprit des vanités de renommée. Je crus un moment à mon talent, mais bientôt revenu à une juste défiance de moi-même, je me mis à douter de ce talent, ainsi que je n'ai toujours douté. Je regardais mon travail comme une mauvaise tentation. J'en voulais à Lucile d'avoir fait naître en moi un penchant malheureux. Je cessai d'écrire, et je me pris à pleurer ma gloire à venir, comme on pleurerait sa gloire passée. Rentré dans ma première oisiveté, je sentis davantage ce qui manquait à ma jeunesse. Je m'étais un mystère. Je ne pouvais voir une femme sans être troublé. Je rougissais si elle m'adressait la parole. Ma timidité, déjà excessive avec tout le monde, était si grande avec une femme que j'aurais préféré je ne sais quel tourment à celui de demeurer seul avec cette femme. Elle n'était pas plutôt partie que je la rappelais de tous mes voeux. Les peintures de Virgile, de Tibulle et de Massillon se présentait bien à mes mémoires. Mais l'image de ma mère et de ma sœur, couvrant tout de sa pureté, épaississait les voiles que la nature cherchait à soulever. La tendresse filiale et fraternelle me trompait sur une tendresse moins désintéressée. Quand on m'aurait livré les plus belles esclaves du sérail, je n'aurais su que leur demander. Le hasard m'éclaira. Un voisin de la terre de Combourg était venu passer quelques jours au château avec sa femme fort jolie. Je ne sais ce qui advint dans le village, on courut à l'une des fenêtres de la grande salle pour regarder. J'y arrivai le premier, l'étrangère se précipitait sur mes pas, je voulus lui céder la place et je me tournai vers elle, elle me barra involontairement le chemin, et je me sentis pressé entre elle et la fenêtre. Je ne sais plus ce qui se passa autour de moi. Dès ce moment, j'entrevis que d'aimer et d'être aimé d'une manière qui m'était inconnue devait être la félicité suprême. Si j'avais fait ce que font les autres hommes, j'aurais bientôt appris les peines et les plaisirs de la passion dont je portais le germe. Mais tout prenait en moi un caractère extraordinaire. L'ardeur de mon imagination, ma timidité, la solitude firent qu'au lieu de me jeter au dehors, je me repliai sur moi-même. Faute d'objets réels, j'invoquai par la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus. Je ne sais si l'histoire du cœur humain offre un autre exemple de cette nature.